صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الله سبحانه وتعالى nous a honorés par cette religion et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé un héritage. Et cet héritage, ce trésor, n'est autre que la connaissance, n'est autre que ce qu'il a laissé comme science, n'est autre que ce qu'il a laissé comme enseignement, que l'on peut résumer, tout ça on peut le résumer en un seul mot, c'est sa sunna, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est nécessaire pour nous d'apprendre cette sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de se battre pour la préserver. Je suis venu aujourd'hui de Paris afin de vous parler d'une sunna. Une sunna qui est en train de disparaître. Ce n'est pas sa connaissance qui disparaît. Alhamdulillah, sa connaissance reste et il y a beaucoup de gens qui se battent tous les jours pour apprendre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, connaître les règles de notre religion et les préserver. Cette sunna, ce qui est en train de disparaître, c'est sa pratique. Et je suis venu vous parler de cette sunna, qui est très importante pour nous parce qu'elle nous permet d'avoir accès à plusieurs adorations. La deuxième raison qui m'amène ici, c'est de vous présenter une initiative dans laquelle se sont réunis des frères dont je fais partie, qui a seulement pour objectif de préserver cette sunna en particulier. Et les objectifs, on pourrait se poser la question, quand on voit une nouvelle initiative naître dans la communauté, on se pose cette question, c'est quoi les objectifs derrière? Est-ce qu'il y a une envie de ses frères d'accéder à telle et telle chose de ce bas monde? Eh bien, alhamdoulilah, il n'en est rien. L'objectif, c'est vraiment de préserver cette sunna et justement de diffuser ce qui va permettre de la préserver. Et ça, c'est la troisième des choses pour laquelle je suis venu. C'est pour vous présenter les outils et ce qui a été mis en place par ces frères qui sont soucieux de préserver cette sunna. J'ai ici, vous voyez donc des slides qui vont évoquer donc cette sunna, qui vont évoquer différents points. Il faut savoir que ça se fait en général, la formation complète dure 3 heures. Là, je regarde, j'ai mis un compte à rebours, il nous reste 53 minutes. Donc on va essayer, Inch'Allah, de faire le tour de la question d'une manière succincte, d'une manière légère, mais que vous sachiez qu'il existe, vous avez la possibilité d'accéder à la version longue avec plus de détails, parce que ça va peut-être soulever des questions, et on est là aussi pour ça. On est là peut-être pour qu'il y a des choses que vous n'allez peut-être pas apprendre, peut-être que ce qu'on va dire, vous le connaissiez, mais ça va peut-être soulever des questions, et donc ça, en soi, c'est un objectif. Si on a arrivé, alhamdoulilah, à sensibiliser les gens à cette cause. On approche du mois de Ramadan et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné nos adorations et nous a enseigné à partir de quand commencent nos adorations. La sunna dont je vous parle depuis tout à l'heure, c'est celle qui nous permet de connaître le début des mois lunaires. Et les mois lunaires, leur importance, elle n'est pas seulement pour le mois de Ramadan, c'est très important et on est très sensible avant Ramadan à ce sujet du début du mois et comment commence le mois lunaire. Mais c'est quelque chose qui est important pour plusieurs mois. Alors il y a Dhul Hijjah pour le Hajj, mais aussi d'autres occasions. Et au-delà des adorations, c'est aussi pour d'autres Il y a d'autres éléments dans notre religion qui peuvent, comme dans les transactions, le mariage, le divorce plutôt, le délai de viduité, etc. Il est nécessaire qu'on puisse connaître le début de nos mois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné comment déterminer les débuts de mois. On va parler donc de cette sunna qui est l'observation du croissant lunaire, voir ce qu'il en est dit dans nos textes. Ensuite, vous parlez de cette initiative qui est ce collectif Hilal France, cet observatoire français du croissant lunaire. Et enfin, vous sensibilisez au fait que il faut, une bonne fois pour toutes, dans notre communauté, et ce n'est pas une critique que je vous adresse, c'est une critique que je m'adresse à moi en premier, on a tendance dans notre communauté, quand il y a un problème, à dire pourquoi ce problème existe-t-il et pourquoi ce problème n'est-il pas réglé. Au lieu de quoi ? De se retrousser les manches et d'essayer, tant bien que mal, à notre petit niveau, d'ajouter sa pierre à l'édifice et de contribuer à ce que ça change. Alors, l'importance de l'observation du Hilal dans le Coran et dans la Sunna. Alors, la première des choses, c'est que il faut connaître quelques notions concernant quelques notions fondamentales concernant l'observation. Là, on va parler de notions qui sont des notions de base qu'on est censé connaître. Et subhanallah, ce sujet, au-delà de parler du sujet en lui-même, il y a plein de choses qui sont autour. Et parmi ces choses, il y a subhanallah cet intérêt que l'on doit porter à ce qui nous entoure. Depuis ces 3 années où cette initiative a commencé, au-delà de rentrer dans les points de fiqh concernant l'observation du Hilal, l'entrée du début du mois, les témoins et tout ce qui s'y rattache, il y a le côté « j'observe le ciel, j'observe la création d'Allah subhanahu wa ta'ala », qui est quelque chose d'exceptionnel. On a des frères aujourd'hui qui ont fait leur petit groupe d'observateurs dans leur mosquée et qui ont cette habitude, quand c'est le début du mois, quand c'est le 29 de chaque mois lunaire, de partir, d'observer le ciel ensemble. Ça rajoute et ça crée de la fraternité entre les frères, ça permet d'échanger. Et donc, on est, alhamdulillah, gagnant. Et ça, on le sait à chaque fois qu'on pratique une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, on sait que derrière, il y a divers intérêts et utilités pour nous que l'on découvre, et vertus que l'on découvre au fur et à mesure de cette pratique. Là, en l'occurrence, on va revenir à des notions de base sur la Lune. Qu'est-ce que la Lune, comment se passe le mois lunaire, etc. Dans ces notions de base, eh bien, il est nécessaire de savoir que le mois islamique est un mois lunaire, donc basé sur la Lune et sa rotation autour de la Terre. Son entrée débute lors de l'observation du premier croissant de lune. Donc le premier croissant de lune, c'est ce qu'on appelle Al-Hilal. Alors comment ça se passe concrètement, en quelques mots, parce qu'on a dit qu'on allait essayer d'être le plus succinct à chaque fois. Lorsque la Lune fait le tour de la Terre, elle se retrouve... Alors déjà, il faut savoir que la Lune, bien sûr, n'émet pas de lumière. La Lune ne fait que réfléchir la lumière du Soleil. Et puis, lorsque la Lune, eh bien, elle fait le tour du Soleil, il y a un moment donné où elle se retrouve dans l'axe entre la Terre et le Soleil. Elle se retrouve entre la Terre et le Soleil. Et quand elle est entre la Terre et le Soleil, de la Terre, on ne la voit plus. De la Terre, on ne la voit plus. On appelle ça la conjonction. On ne la voit plus. Ensuite, quand elle va se décaler un petit peu, eh bien, il y a un petit morceau qui sera éclairé par le soleil et que l'on va voir. Et là, on va voir apparaître le premier croissant de lune. Et c'est là que va débuter le mois, à partir du moment où on va observer le premier croissant de lune. Un mois lunaire islamique comporte 29 ou 30 jours. Et ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous l'enseigne. Et puis, c'est ce qu'apprend toute personne, musulman ou non, qui étudie l'astronomie. Le calendrier islamique est composé de 12 mois lunaires, comme nous le dit Allah subhanahu wa ta'ala. Inna iddat ash-shuhur 'indallahi 12 shahran fi kitabillah. Ces mois rythment la vie du croyant et sont liés à des actes d'adoration, mais pas seulement, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est lié à des périodes de viduité pour la femme divorcée, pour la femme qui est veuve, qui doit attendre 4 mois et 10 jours. Ça peut être concernant des dettes, concernant... Il y a des tas de sujets où il est nécessaire de connaître les mois lunaires. Ensuite, une autre notion importante, c'est de savoir qu'en islam, la nuit précède le jour. Donc le jour calendaire commence après le coucher du soleil ou après le maghrib. Donc là, en l'occurrence, maintenant, tout de suite, on vient de commencer le jour suivant. Parce que le maghrib est passé, le soleil s'est couché. On a donc la nuit et ensuite le jour. Cela signifie qu'à partir du moment où on voit le croissant lunaire, eh bien, la nuit, parce que le croissant lunaire s'observe après le coucher du soleil, à partir de là, eh bien, on est déjà dans Ramadan. Voilà pourquoi dans certaines mosquées, ils commencent à faire tarawih immédiatement. Une fois que l'annonce arrive, on fait tarawih immédiatement parce qu'on commence déjà à profiter de la première nuit de Ramadan, alors qu'on n'a pas encore jeûné. Que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de l'observation et au sujet du début du mois? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le rapporte Al-Shaykhan, Al-Bukhari et Muslim, à Nabi Hurayra radiallahu ta'ala anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. Prophète صلى الله عليه وسلم a dit, comme cela est rapporté dans le Bukhari Muslim, c'est rapporté d'Abu Huraira, Prophète صلى الله عليه وسلم a dit, jeûnez à sa vue, c'est-à-dire à la vue du Hilal, du premier croissant lunaire, et rompez le jeûne à sa vue. Donc, à la fin du mois, on arrête de jeûner, on considère que le mois de Ramadan est terminé, que le lendemain c'est l'Eid, à sa vue. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, s'il vous est caché, alors complétez le mois de Sha'ban à 30. S'il vous est caché, complétez le mois de Sha'ban à 30 jours. Donc ici, on a le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous indique que l'entrée du mois est liée à l'observation. Son mot les rouillatis, si vous le voyez, et que ce n'est pas lié à son existence ou à son existence potentielle. Et on va revenir là-dessus, comme aujourd'hui, certains ont adopté une autre méthode, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a une sunna qui est en train de disparaître. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit de débuter le mois à son observation et que d'autres disent oui, mais le simple fait que son observation soit potentiellement existante, c'est possible de l'observer, ça nous suffit. Et ça, on le fait à l'aide de calculs. Ben ça pose un problème. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne même la solution de lorsqu'on ne le voit pas. Fa'in rubbiya alaykum. Lorsqu'il est caché, alors considérez que ce n'est toujours pas Ramadan. Et qu'on est donc le 30 de Sha'ban. Alors, ce hadith, il n'est pas le seul. Il y a tellement de hadiths qui parlent de ce sujet qu'on est, on est au degré de tawatur. Dans la science du hadith, at-tawatur, c'est lorsqu'un hadith atteint un niveau qui est notoire. C'est-à-dire qu'il n'a même plus besoin de... c'est-à-dire les savants du hadith n'ont même plus besoin de regarder les chaînes de transmission. Il y a tellement de rapporteurs à chaque étape qu'il n'y a même plus besoin de douter. Et donc, on a la certitude que c'est un enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a tellement de hadiths qui vont dans ce sens que ça atteint le degré de tawadu. Donc on a le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous indique comment commencer le mois, il faut observer. Si on l'observe, le mois commence. S'il n'est pas là, eh bien, ne commence pas le mois. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam va plus loin ici. Il ne dit pas seulement si vous ne l'observez pas, il dit « fa'in rubbiya alaykum » s'il est caché. C'est-à-dire qu'il est potentiellement là, mais vous ne le voyez pas. À ce moment-là, فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ. Terminez le mois de 30 jours. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilise la voie passive, s'il vous a été caché, c'est bien pour indiquer qu'il est possible que ce croissant soit derrière les nuages. Et pour autant, il a dit, complétez les mois à 30 jours. C'est-à-dire que c'est très important. Ce hadith nous montre que une connaissance potentielle n'est pas suffisante pour acter une adoration. Ce qui est potentiel n'est pas suffisant. Il faut quelque chose de certain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, évoque un autre point. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Inna ummatun ummiya » Donc pareil, ce hadith est dans le Bukhari et le Muslim. Il dit « Inna ummatun ummiya » Nous sommes une communauté illettrée. Et subhanallah, vous allez voir que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, quand tu dis à quelqu'un qu'il est illettré, c'est quelque part un défaut, c'est quelque chose de, disons, qui est péjoratif. On va voir que ce que cite le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici est quelque chose de qualitatif. C'est une qualité, le fait qu'il dise illettré. Il dit « Inna ummatun ummiyatun » Nous sommes une communauté illettrée. « La naktubu wa la nahsubu » Et nous ne sommes pas connus pour maîtriser l'écriture ou le calcul. Ensuite, « Al-shahru hakada wa hakada wa hakada »« Wa aqada al-ibhama fi thalithati » En fait, sallallahu alayhi wa sallam dit « Al-shahru hakada » Il montre ses deux mains. Il dit « Un mois lunaire, le mois est ainsi, et ainsi, et ainsi, et il a « aqada al-ibhama » Al-ibham, c'est le pouce. Il a fermé le pouce la troisième fois. Il a même dit qu'il aurait collé ses mains. Il a dit « Hakada, wa hakada, wa hakada ». Donc, trois fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam montre ses deux mains. La première fois, ça fait 10. La deuxième fois, ça fait 10. Et la troisième fois, ça fait 9, vu qu'il enlève un doigt. Donc il dit 29 jours. Aoup ! Il dit « Wahakada, washahru hakada, wahakada, wahakada » Et le mois est aussi, et il montre trois fois ses mains. Trois fois ses mains. Ce qui signifie 29 la première fois ou 30 jours. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Il est en train de nous dire qu'un mois lunaire, c'est 29 ou 30 jours. Oui, un mois lunaire, c'est 29 ou 30 jours. Mais dans sa manière de s'exprimer, et dans sa manière de le montrer aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des enseignements à tirer. Alors déjà, la première des choses, c'est que le fait d'être illettré, c'est qualitatif. Ça n'a rien de péjoratif, au contraire. Et cela vient souligner la sagesse de cette disposition. Parce qu'il y en a certains qui prennent ce hadith et qui le comprennent comme personne ne l'a compris avant eux. Vous savez qu'il y a des règles, hein. Je ne peux pas aller marcher jusqu'à la bibliothèque que vous avez au fond de la mosquée, sortir un livre de hadith, lire un hadith et en extraire de moi-même, comme ça, des règles, sans avoir ni outils, ni rien. Ça ne marche pas comme ça. Lorsque je vais lire un hadith, pour comprendre ce hadith, il faut que je le comprenne à la lumière de nos pieux prédécesseurs, de ceux qui étaient proches de la source, qui ont directement puisé de la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou de ceux qui sont venus après, ou de ceux qui sont venus après. Et quand quelqu'un vient te donner une indication ou une explication d'un hadith que personne n'a dit avant lui, tu dois la mettre de côté. Certains ont pris ce hadith et ont dit, en fait ce hadith il est là pour nous dire que si à l'époque ils observaient, c'est parce qu'ils ne savaient ni lire, ni écrire, ni compter, ils ne savaient pas faire des calculs astronomiques aussi sophistiqués qu'on a aujourd'hui, donc à l'époque c'était l'observation, maintenant on n'a plus besoin de tout ça, et c'est terminé. Quelqu'un qui ne maîtrise pas la science du hadith peut amener cette conclusion. Mais en réalité, ce n'est pas ce qu'on retrouve chez ceux qui expliquent le hadith. Au contraire. Ils expliquent plutôt que... Alors, déjà, pourquoi cette explication, on la met de côté? Parce que ça voudrait dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et là, on va rentrer rapidement dans un petit domaine technique, ça voudrait dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a lié l'observation à l'illettrisme. Et il a dit, vu que vous êtes illettrés, ou vu que nous sommes illettrés, alors on observe. Et donc, lorsque l'illettrisme disparaît, l'observation disparaît. Et ça, personne ne l'a dit. De considérer que la cause, al-illa, du fait d'observer, c'est l'illettrisme, ça, personne ne l'a dit. Alors, qu'est-ce qu'a voulu dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Eh bien, il faut regarder ce que nos savants disent, rahimahumullah. Ils disent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam indique que nous sommes peut-être une communauté qui n'est pas connue pour savoir écrire et compter. Mais, il ne nous échappe pas que le mois soit de 29 ou 30 jours. On est une communauté qui n'est pas connue, c'était pas... Les Arabes étaient de tradition orale. Ils n'étaient pas connus pour écrire ou pour lire. Ils avaient d'ailleurs une mémoire qui était plus grande que la normale. Ils transmettaient les choses oralement. L'écriture et la lecture, c'était assez rare. Et donc, cela ne nous empêche pas. Nous, on n'est pas connus pour maîtriser la lecture et l'écriture. Cela ne nous empêche pas de savoir que le mois est de 29 ou de 30 jours. Autrement dit, c'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disait, nous n'avons pas besoin de savoir ni écrire, ni lire, ni compter pour savoir que le mois est limité à 29 ou 30 jours. Et ce savoir nous suffit amplement pour déterminer l'entame du mois. Ça nous suffit amplement. Donc ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici est en train de dire, c'est que c'est une ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala a attaché notre adoration à quelque chose qui est adapté et facile pour tout le monde. Qu'on soit une communauté qui sache lire et écrire ou pas, Allah nous a donné un moyen d'arriver à notre adoration que tout le monde peut comprendre. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il montre avec ses doigts, c'est-à-dire que les gens qui sont devant lui, même ceux qui ne savent pas compter, ils ne connaissent pas les chiffres, imaginez. Imaginez la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme ça qu'il faut le comprendre, ce hadith. Même celui qui ne sait pas compter, ne connaît pas les chiffres, qu'est-ce qu'il fait? Un jour passe, il enlève un doigt. Un autre jour passe, il enlève un doigt. Un autre jour passe, il enlève un doigt. Ou à Al-Qadha jusqu'à ce qu'il arrive à 29. À 29, il observe. S'il ne voit rien, ben il considère qu'il doit rajouter un doigt. Et après, c'est fini. Vous imaginez la ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ce hadith-là, il est exceptionnel. Et le fait que le mois soit de 29 ou 30 jours, cela n'a jamais été démenti par quiconque qui sait lire et écrire. Mieux encore, cette donnée que le mois est de 29 ou 30 jours a été confirmée avec les outils les plus perfectionnés de calcul qui ont établi que la révolution synodique de la Lune est de 29 jours, 12 heures, 44 minutes et 3 secondes en moyenne. Donc le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam montre avec ses doigts contribue à l'objectif. L'objectif, qu'est-ce que c'est? De rendre accessible au plus grand nombre, sans abstraction de chiffres, et afin d'ancrer l'information par le geste. C'était sa manière d'enseigner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent « Al-fi'lu ablaru min al-qawl ». Un geste est plus marquant qu'une parole. Et ça, on a beaucoup de savants qui en parlent. Hein. Ibn Hajar al-Asqalani, qui a fait le charh de Sahih al-Bukhari, il en parle dans ce charh, il en parle. Et d'autres aussi évoquent tous ces points que je vous ai cités. Donc notre législation, alhamdoulilah, a rattaché la détermination du début du mois à l'existence effective du croissant. À l'existence effective du croissant. Il faut le voir pour qu'on considère qu'on le considère et non à son existence supposée ou calculée. Or, son existence effective se réalise soit par la vision oculaire, soit par l'achèvement du nombre de jours possible, c'est-à-dire 30. Car le mois se limite à 30 jours. Donc Allah Ta'ala ici nous facilite de sorte à ce que les savants, comme le commun des gens, les habitants des villes, comme ceux du désert, soient placés sur un pied d'égalité. C'est une facilitation accordée au commun des musulmans. Subhanallah. Après, il y a d'autres éléments qu'on pourrait citer concernant le fait de dire avant les gens calculaient, avant les gens ne maîtrisaient pas, aujourd'hui ils maîtrisent, etc., etc. Bah, ça, c'est quelque chose qui est dit et qui, désolé, on ne peut pas le prendre pour argent comptant. Je m'explique. On dit avant les gens ne savaient pas calculer. Qui a dit ça? Qui a dit qu'avant les gens ne savaient pas calculer et faire un calcul précis pour prédire le calendrier lunaire? Les gens savent faire ça depuis 4 millénaires, depuis l'époque des Babyloniens, ils savent le faire. Je ne sais pas si vous imaginez. Et les gens savaient le faire chez les Égyptiens, en Chine, etc. Toutes ces choses-là sont claires, nettes et précises. Mais je vais aller plus loin. C'est quelque chose que des gens savaient faire à l'époque du prophète Sansem de manière sûre. Parmi les musulmans, certainement. Mais les juifs, c'est sûr. Parce que c'est comme ça qu'ils calculaient leur calendrier lunaire, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à Médine. Alors la question c'est, vous nous dites à l'époque, qu'à l'époque il n'y avait pas le calcul, ils ne savaient pas calculer. Si aujourd'hui que les gens savent calculer, on peut avoir recours au calcul. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi il n'a pas dit, allez voir les gens qui savent faire le calcul? Si vous ne le voyez pas, référez-vous-en à ceux qui savent calculer. Il y en avait à Médine qui savaient le faire. Ils avaient même un calendrier qui était basé sur le calcul. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le prend pas? Parce que c'est des juifs. Absolument pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait des autres communautés les choses dont on avait besoin. Il n'y a aucun problème à ça. Le minbar sur lequel on monte. Et des exemples, il y en a plein. Quand il y a une utilité, le prophète Sansem n'hésite pas à la prendre. Le prophète Sansem, quand on lui offre un vêtement qui n'est pas de sa culture, il le mettait, le prophète Sansem. Il n'y avait pas de souci avec ça. Alors pourquoi venir nous dire qu'à l'époque, le calcul n'existait pas? Mais aujourd'hui, on nous dit, ça y est, aujourd'hui, on est au top, tout le monde sait calculer. Tout le monde sait calculer, tout le monde sait faire les calculs permettant de connaître... J'ai voulu consulter. Alors, je suis là parmi vous. Peut-être que parmi vous, il y a des scientifiques. Mais moi, à mon niveau, à un niveau, disons, scolaire normal, mais qui n'est pas scientifique, j'ai voulu consulter les rapports de l'Observatoire de Paris, l'INCCE, ou d'autres. C'est des choses, il faut avoir un niveau pour lire, pour consulter ces données-là, pour comprendre ce qui se passe. Quand on parle de calcul, on n'est pas en train de parler d'arithmétique. On n'est pas en train de parler de 1 plus 1 égale 2. On est en train de parler de formules compliquées. Alors, me dire qu'aujourd'hui on sait calculer, désolé. Aujourd'hui, les scientifiques savent calculer. Ça reste quand même une élite. Donc ça voudrait dire qu'on exclut une grande partie de la communauté de pouvoir déterminer seul le mois lunaire. Parce que oui, on peut le déterminer seul. On peut le déterminer seul. Et ça, on va en parler juste après. On a l'impression que c'est hyper compliqué. On voit des gens avec des télescopes. On dit, oh là là, ça c'est quelque chose. Jamais, c'est accessible à tout le monde. Walillah ilham. Autre hadith. Le prophète sallam dit, la tasoumu hatta tarawu al-hilal. Parce qu'on pourrait se dire que, pourquoi on rajoute un hadith ? On pourrait se dire que le prophète sallam a dit, soumu liruyati, jeûnez lorsque vous le voyez. Mais des fois, le prophète sallam nous ordonne de faire une chose, et ce n'est pas obligatoire. Mais là, on a le prophète sallam qui nous ordonne de faire une chose, et qui nous interdit le contraire. Ce qui ferme la porte à cette possibilité. Il dit, la tasoumu hatta tarawu, ne jeûnez pas tant que vous n'avez pas vu l'hilal. Et ne rompez pas le jeûne tant que vous ne l'avez pas vu. Et s'il est caché, bien, limitez-le à 30 jours. Ou 30. Donc ça, c'est un hadith qui rajoute. Qui rajoute une couche sur ce point qu'on a cité. Voilà donc le hadith que je vous mets à l'écran. Donc, en résumé, il nous reste 25 minutes, je vais essayer, Inch'Allah, d'aller à l'essentiel, mais subhanallah, il y a tellement de choses à dire. Au niveau du fiqh, si on prend la mas'ala, les fuqaha, les quatre écoles, sont d'avis qu'on doit avoir recours à l'observation, d'accord, d'une part. Il y a une divergence entre les Hanabila et le reste des quatre, les trois autres écoles, donc Malikiya, Shafi'iya et le Hanafiya. Sur qu'est-ce qu'on fait si on ne le voit pas. Est-ce que fardoulou lahou signifie on jeûne quand même et on considère que s'il y a des nuages, est-ce qu'on jeûne quand même ou pas. Voilà, il y a khilaf. Chez les Hanabila, ils considèrent que oui. On ne va pas rentrer plus dans ces détails-là. Mais comme je vous l'ai dit, ces détails sont dans la version longue. Alors, si on fait un résumé, l'observation se fait au marais, le 29e jour de Sha'ban. Le début du mois de Ramadan est déterminé par l'un des deux moyens suivants, soit on voit le croissant lunaire, donc le mois de Sha'ban se limite à 29 jours, le jeûne débute le lendemain de cette observation. Soit on ne voit pas le croissant lunaire, le mois de Sha'ban est alors complété à 30 jours, le jeûne débute le surlendemain de cette non-observation. Claire ? Ça, c'est quelque chose de clair. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur cette partie-là ? Très bien. On continue ? On a ensuite, ici, je vais passer en revue ces points-là rapidement. On a ensuite des paroles de compagnie. Notamment Aïcha, radiallahu ta'ala anha, qui dit « Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam » يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤيته رمضان فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام. Aïcha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait une attention particulière au mois de Sha'ban plus qu'à tout autre mois. Il observait ensuite le jeûne à la vision du croissant de Ramadan, et si celui-ci était masqué, il complétait le nombre à 30 jours, puis il jeûnait. Voilà ce que nous dit Aïcha, radiallahu ta'ala anha. donc, avec tous ces textes, on arrive à l'obligation. Là, il y en a un autre, on va passer. Est-ce qu'on arrive donc à l'obligation d'observer Al-Hilal? Eh bien oui. Observer Al-Hilal est une obligation et il y a consensus là-dessus. Al-Ijma. Il y a Ijma sur le fait que, c'est-à-dire les savants sont unanimes sur le fait que observer Al-Hilal est une obligation. Alors est-ce que c'est Fard Kifaya ou... Il y a consensus et il est rapporté de divers savants. Ibn al-Mundir, qui est un savant chafirite, mort en 318. Ibn al-Abbas, savant malikite, mort en 463. Ibn Rushd, savant malikite, mort en 595. Al-Aini, mort en 855. Ibn Taymiyyah, mort en 728. On a donc un savant hanbali, un savant hanafi. On a ici deux savants malikites. On a un savant chef et bien d'autres. Là, on n'est pas en train de dire que c'est leurs avis. On est en train de dire qu'ils ont rapporté l'ijma. Que eux disent qu'il n'y a pas de divergence sur le sujet. Bien sûr, ils sont de cet avis. Ensuite, eh bien, on a... On a un extrait ici de ce que dit Cheikh Islam Ibn Taymiyyah dans le Majmou' al-Fatawa à ce sujet. Et on cite ensuite la divergence qu'il y a entre nos savants sur ce sujet. Alors ici, calcul ou vision pour déterminer le début du mois lunaire. On va évoquer un petit peu, rapidement, le calcul. Il faut savoir qu'une, comme on l'a dit tout à l'heure, une adoration doit être basée sur, pour pouvoir avoir un hukm, il faut que ça soit quelque chose de fort et pas seulement d'hypothétique, de possible. Une des sagesses de l'ordre prophétique de la vision du Hilal pour la détermination du mois de Ramadan et de Shawwal, et de lier l'obligation de cette adoration, qui est le jeûne, à une cause apparente et à la portée de tous, sans qu'il soit nécessaire d'être un astronome ou de maîtriser le calcul. Ça, on l'a déjà dit. Il n'est donc pas licite d'abandonner un principe juridique établi qui s'adresse à tous les musulmans pour une méthode sans fondement religieux. Le calcul, c'est une méthode sans fondement religieux. Et qui ne s'adresserait qu'aux astronomes. Alors, il y en a qui... Il y a des arguments, il y a des, disons, des contre-arguments qu'on entend. On entend des fois que pourquoi on accepte le calcul pour la prière et on n'accepterait pas le calcul pour les mois lunaires. On accepte le calcul pour la prière. Et on n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas l'accepter. Il faut l'accepter, bien sûr. Et pourquoi on n'accepterait pas pour le mois lunaire? C'est quoi la différence entre les deux? Cette question, elle a été traitée pas maintenant. C'est-à-dire que ceux qui émettent cette interrogation, ce n'est pas les premiers. Elle a été traitée au 6e siècle par Sanad ibn Inad al-Iskandari. Et elle a été reprise par Al-Qarafi rahimahullah dans son livre Al-Furuq. Et il dit que de dire qu'on va utiliser le calcul pour l'observation de la lune parce qu'on utilise le calcul pour les prières. Il dit cette analogie est fausse et caduque. Et il va expliquer. Il dit parce que en effet, le messager d'Allah a explicitement indiqué, s'agissant précisément de l'observation du Hilal, que l'on se base uniquement sur la vision. À chaque fois qu'on a un texte concernant le Hilal, ou disons la majorité des fois où on a un texte sur le Hilal, on parle de l'iru'yati, Hatta taraw. La tasoumu hatta taraw. On parle à chaque fois de vision, vision, vision. Concernant les horaires de prière, Allah Ta'ala n'a pas conditionné les horaires de prière à l'observation. On a aqimi salata li duluki shams. Accomplis la prière lorsque le soleil va au déclin du soleil. Au déclin du soleil. Ça, c'est différent. De dire jeûne lorsque tu vois et de dire prie lorsque le soleil décline. Ça amène quoi comme résultat? Bah que dans le premier cas, si tu vois pas, tu n'as pas le droit de jeûner. Dans le deuxième cas, ce qui est important, ce n'est pas l'observation, c'est la position du soleil. Et la position du soleil, que tu la détermines par la vision ou par le calcul ou par quelque chose que ce soit, c'est suffisant. Alhamdulillah. Et à chaque fois que la prière est citée, il n'est pas mentionné cette obligation d'avoir recours à la vision. Voilà en résumé, hein, parce que la fatwa de l'imam Al-Qarafi est longue et il amène les tenants et les aboutissants. Mais concrètement, si je devais résumer en un point, c'est ça. C'est les textes parlent d'observation lorsqu'il s'agit de la lune, mais évoque la position du soleil lorsqu'il s'agit de la prière. On peut donc utiliser aisément le calcul et pour les prières, mais surtout pas pour la lune. Et surtout pas pour l'entrée du mois, des mois lunaires et du mois de Ramadan. Après, il y a aussi autre chose qu'on peut ajouter. Si on compare avec la prière, bah on se rend compte d'une chose, subhanallah, c'est que ceux qui sont pro-calcul, ceux qui disent « laissez tomber l'observation, on passe au calcul », qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent « ça va unifier les musulmans ». Si vous passez au calcul, on va tous jeûner le même jour, on va tous faire l'Eid le même jour, on le saura à l'avance, même très à l'avance, et puis ça va nous unifier, etc. Ça va nous unir. Bah, regardons le calcul au niveau de la prière. On se base sur le calcul au niveau de la prière. Est-ce que tous les gens prient au même moment? Il y a différents degrés. Il y a 12 degrés, il y a 15 degrés, il y a 17 degrés, 18 degrés, 19 degrés, 20 degrés. On était à Lyon hier, ils se sont mis d'accord sur 14 degrés et demi. Il y a des mosquées où c'est 12 degrés, il y a des mosquées où c'est 18 degrés. Est-ce que le fait de passer au calcul unifie tout le monde? Ça y est, tout le monde est d'accord? Non, parce qu'il y a différentes méthodes de calcul. Et concernant la lune, on est à presque une quinzaine de critères différents. Donc le calcul selon un tel, le calcul selon un tel, ils ont des critères qui sont différents dans le calcul. Donc de dire que on va fermer une porte et que ça va régler le problème, pas du tout. Et d'ailleurs, qui a dit que c'était un problème? Qui a dit que, selon les pays, les gens ne jeûnent pas les mêmes jours? Qui a dit que c'était un problème? On veut que tout le monde jeûne au même moment sur Terre, mais ce n'est pas possible. La Terre, elle est faite comme ça. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas demander à quelqu'un dont c'est le matin de suivre quelqu'un qui est en train d'observer. Il y en a un, c'est déjà le matin sur Terre. Et l'autre, il vient de dire, je l'ai observé. Tu vas lui dire, bah, cette journée-là, il faut que tu la rattrapes, il faut que tu commences à jeûner. Comment tu vas? La terre est comme ça. C'est pas possible. Et c'est arrivé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est rapporté dans Sahih Muslim, le fameux hadith Quraib que tout le monde connaît. C'est arrivé. Un esclave qui va à Sham, qui était à Médine, qui va à Sham pour quelque chose. Et quand il revient, bah, il annonce que la vision n'était pas au même moment. Et il annonça à Ibn Abbas. Ibn Abbas radiallahu ta'ala nous dit: nous nous baserons sur notre vision. Est-ce que vous savez, est-ce que vous situez Médine et Sham? Médine et la Syrie aujourd'hui. Et Damas. Est-ce que vous les situez? Comment ils sont? Et aujourd'hui, alors à leur époque, Ibn Abbas radiallahu ta'ala nous dit: non, nous resterons sur notre vision, entre guillemets, c'est pas ce qu'il dit, mais entre guillemets, il dit, nous resterons sur notre vision locale. Et toi, tu veux que quelqu'un qui est au Maroc ils jeûnent en même temps que ceux qui sont en Malaisie? Non, il n'y avait pas de problème. Et en plus, Ibn Abbas dit une chose dans ce hadith, il dit, nous continuerons à jeûner jusqu'à voir les Hilal, donc de l'Aïd, ou arriver à 30 jours, et ensuite il dit, Hakada amarana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de faire. Ça ne leur posait pas de problème. Et alors, ils vont faire l'Aïd le lendemain. Pourquoi? En quoi c'est une division? En quoi c'est des problèmes? Non, ce qui pose problème, ce qui poserait problème, c'est que des membres d'une même famille, il y en a un qui fait l'Aïd, l'autre qui jeûne, etc. Là, ça pose. Là. Il y a une cassure là, non, dans les familles. Mais à l'échelle mondiale, ce n'est pas problématique. Voilà. Donc, en résumé, on va citer ce que nous disent, au-delà de ce point qu'on a déjà cité. Donc, retenez que la très grande majorité des savants anciens et contemporains estiment que la détermination du mois lunaire par le seul calcul astronomique n'est pas permise. Et cet avis doit être le seul retenu. Car il s'agit d'une question d'ordre culturel qui exige la conformité à la signification littérale du texte et à la sunna de notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une question qui peut être posée, c'est est-ce que le calcul peut être utilisé? Est-ce qu'il est utile? Oui. Le calcul astronomique aujourd'hui, on a des scientifiques qui sont à la pointe et qui ont énormément avancé. Et le calcul peut être utile. Il peut être utilisé pour infirmer un témoignage. On a des données qui sont des certitudes. Quelqu'un va venir et dire j'ai vu le Hilal. On va lui dire mais la conjonction dont on a parlé au début, la conjonction n'a même pas eu lieu. Comment tu peux voir le Hilal? Donc on va savoir que peut-être qu'il est en train de parler du Hilal de la fin du mois. Il y a des gens qui peuvent amener un témoignage, et sincère, hein, il n'est pas en train de mentir, mais un témoignage sincère, mais il n'y connaît rien. Il ne sait pas ce que c'est qu'un Hilal. Et il ne sait pas où est-ce qu'il faut regarder, à quelle heure, etc., etc. Donc ça peut permettre de dire non, ton témoignage, on ne peut pas l'accepter. Les calculs modernes étant d'une très grande précision, ils serviront à déterminer un témoignage, mais ils serviront à démentir un témoignage à fouet, mais ne peuvent être utilisés pour la détermination du début ou fin du mois lunaire en remplacement de la vision. Wallahu ta'ala a'lam. Ensuite, juste avant de passer à la deuxième partie, et il nous reste 9 minutes, donc vous imaginez bien que ça va aller vite. Voilà. Alors, je passe la partie astronomie. On espère un jour pouvoir le... Alors ça aurait été intéressant d'en parler. Il y a une étude qui a été faite par l'équipe Hilal France sur l'analyse des annonces du début de Ramadan. Sur les 35 ans, sur les 35 dernières années. Et sur les 35 dernières années, on s'est rendu compte que 24,3% des annonces qui ont été faites sont de l'ordre de l'impossible. Impossible. Selon ce qu'on connaît et selon les calculs eux-mêmes, c'est impossible d'avoir observé Al-Hilal. Pour beaucoup qui disent, il y a quelqu'un dans tel pays, il l'a vu. Et quand on regarde, eh bien, on se rend compte que c'est impossible. Impossible pour différentes raisons, la conjonction n'a pas eu lieu, mais aussi si le soleil se couche, si la lune se couche avant le soleil, ce n'est pas possible de le voir. C'est impossible. Il faut que le soleil se couche, et ensuite, dans le laps de temps qui va passer, la lumière va s'atténuer et on va pouvoir distinguer le croissant de lune. Parce que le croissant de lune, il est tellement fin que s'il y a le soleil, tu ne peux pas le voir. Donc s'il s'est couché avant le soleil, c'est impossible de le voir. Il peut témoigner, il peut dire ce qu'il veut, c'est pas possible. C'est comme si quelqu'un sort dehors et dit « je vois le soleil ». Il re-rentre, il dit « j'ai vu le soleil au milieu du ciel ». Il te le dit tout de suite, là, maintenant. On est à quelques minutes de l'Arisha, c'est possible ? On va lui dire non. Il peut témoigner, il peut même jurer s'il veut. Son témoignage, il est impossible. Donc voilà, il y a une étude comme ça qui a été faite, et ça montre que les annonces, vous imaginez, 24,3%, on a aussi 29,7% qui sont improbables. On ne va pas dire impossibles, mais improbables. Ça fait quand même un gros pourcentage. Et là, derrière, il y a des humains, hein, des croyants qui ont jeûné. Voilà. Dans cette deuxième partie, c'est de vous parler de cette initiative. Cette initiative qui s'appelle Hilal France. Qu'est-ce que c'est concrètement ? Bah, ce sont des frères qui se sont réunis et qui se sont dit, bah tiens, là il y a cette sunna qui est en train de disparaître. On a étudié ces points-là, parce que ces frères-là, en l'occurrence, c'est des enseignants en général, des imams, des enseignants, des gens qui enseignent et qui étudient depuis plus de 20 ans, et qui se sont dit, pourquoi pas faire en sorte de transmettre et sensibiliser les gens à ce sujet, d'une part, et qu'on remette au goût du jour cette observation. Et c'est pour ça notre travail consiste à faire le tour du maximum de mosquées pour parler de ce sujet-là, pour former les gens, leur expliquer bien sûr la partie religieuse, plus approfondie que ce qu'on a fait ensemble, mais aussi leur dire de rejoindre cette initiative. On n'est pas en train, on n'a pas pour objectif de créer une instance qui va annoncer le début du mois, etc., etc. La politique, on la laisse aux politiciens. Nous, ce qu'on veut, c'est juste que tout le monde soit sensible à cela. Ça fait 3 ans qu'on a des frères, qui sortent en France pour observer à chaque mois, pas seulement le mois de Ramadan, chaque mois. Et, alhamdoulilah, des équipes se constituent. Et ça nous a permis de faire la connaissance de beaucoup de gens, de beaucoup de gens de qualité de notre communauté. On a un frère, que vous allez peut-être voir, qui va venir peut-être demain, et d'autres frères qui sont dans ce domaine et qui s'intéressent et qui observent depuis 30 ans, qui ont des outils, etc., etc. Quand ils ont entendu parler de cette initiative, ils nous ont rejoints. Donc l'objectif, ce n'est pas d'avoir un leadership ou d'avoir une quelconque autorité ou quoi que ce soit. Nous, ce qu'on veut, c'est nos adorations. Et si les instances qui annoncent les débuts de mois voient que beaucoup parmi les musulmans ou la majorité des musulmans sont conscients de ce sujet et ne veulent plus de ce qu'ils font, leur calcul ou autre, eh bien, il est possible que ces instances changent leur fusil d'épaule, alhamdoulilah. Nous, on est des tollab al-ilm, des étudiants passionnés par ce qu'on fait, par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi passionnés par l'astronomie, passionnés par le fait d'observer, etc. Et ce qu'on veut, c'est transmettre cette passion au maximum de gens. Donc, on a un groupe où il y a presque 10 000 personnes sur Telegram. Et alhamdoulilah, il y a des équipes d'observation à travers la France. Voilà, c'est un projet, comme vous l'avez ici, initié par des frères engagés, étudiants et enseignants en sciences religieuses, passionnés d'astronomie. Nous, en tant qu'élèves, déjà, on a entendu parler de ce sujet, vous ne pouvez pas savoir combien de fois. On est quasiment tous des élèves de Cheikh Ayoub à la madrasa de Paris, et ils nous parlaient de ça depuis les années 94, Je me souviens, moi, il dessinait sur le tableau avec la craie, il dessinait la lune, le soleil, il nous expliquait, voilà, comment ça se passe, etc. Et puis, c'est aussi ça, c'est aussi de transmettre. Nous, ceux qui étaient là avant nous ont transmis ces connaissances, il faut aussi qu'on les transmette à nos enfants, que ça ne disparaisse pas. C'est ça aussi, se battre pour la sunna. C'est faire en sorte que ce qui nous a été transmis de génération en génération, et l'observation existe depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, ces histoires, on en entend parler depuis quelques années. Il est nécessaire que ça se transmette. Voilà donc les défis à relever par ce collectif de frères. C'est on a une absence de réseau structuré d'observateurs en France métropolitaine. L'objectif, c'est que à terme, il me reste 1 minute 50, que à terme, on est des observateurs partout en France. Déjà, le groupe de 10 000, là, qui sont partout en France, et alhamdoulilah, il y a même des gens d'autres pays, ils observent, ils emmènent leurs enfants, ils prennent des photos, ils les envoient. L'objectif, c'est qu'on ait des observateurs, mais des gens confirmés. Donc, ils vont être formés, parce qu'on a des frères qui se sont formés à l'astronomie, on a derrière des scientifiques à qui on demande conseil, comme la sœur Fatouma Takebe, qui est à l'Observatoire de Paris, ou d'autres personnes qui sont des scientifiques à qui on peut, en France ou ailleurs, à qui on peut envoyer des questions, ils nous répondent, etc. L'objectif, c'est qu'il y ait des groupes qui se forment, de personnes qui maîtrisent l'observation et qui peuvent ensuite envoyer leurs témoignages ou leurs clichés sur le site de Hilal France. Il y a un frère, Jazallah Khair, qui a fait une application. Donc il est possible, grâce à l'application, là c'est encore la forme, bêta testeur. Voilà, on est en bêta testeur, mais avec l'application, il suffit juste de l'ouvrir et de la pointer sur le ciel et il te montre où est-ce que tu peux observer le Hilal. Donc après, il suffit juste de regarder, d'attendre et d'espérer. Parce que des fois, bon, bah, tu peux le voir et des fois, comme on a vu dans le hadith du prophète sorcier, tu peux ne pas le voir. Et donc, face à toutes ces photos, face à tous ces témoignages, eh bien, va naître ensuite un calendrier qui existe déjà depuis quelques temps. Si vous allez sur le site Hilal-France, vous pouvez aisément avoir le calendrier basé sur les observations de la France métropolitaine. Voilà, donc on veut réhabiliter l'observation, sensibiliser les fidèles à l'importance de cette observation. Donc j'ai terminé. Structurer le collectif sur le plan jurisprudence et sur le plan scientifique. On avance, on a des frères qui font des travaux au niveau FIRC et d'autres au niveau astronomie. Et ensuite, ben voilà, il y a une connexion entre les différents domaines. Donc, alhamdoulilah, on a, j'ai fait le tour de tout ça. La troisième partie se joue en une phrase, c'est que il y a des frères, moi je suis plutôt sur la partie, disons, religieuse, Efir Liya. On a des frères qui sont calés en astronomie, qui se sont outillés, qui se sont formés, qui vont, Inch'Allah, venir, qui vont venir ici. Alors je ne sais plus ce sera quand le rendez-vous. Mais en tout cas, l'objectif, c'est que, au bleuet, vous ayez une équipe de frères parmi vous qui observent et qui, chaque mois, vont dans un spot qu'ils ont trouvé, parce que voilà, il faut chercher un petit peu pour trouver un endroit où le ciel est dégagé, où il n'y a pas telle et telle chose qui peut gêner, etc. Et où les observations pourront se faire tous les mois, Inch'Allah ta'ala. Donc faites en sorte, bi'idhnillahi ta'ala, de pratiquer cette sunna et faites en sorte d'en faire quelque chose qui vous réunisse et amenez vos enfants pour que cette sunna se perpétue. Et on espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, nous récompense pour chaque pas que l'on fait dans sa direction, pour chaque effort que l'on fait pour sa sunna. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous réunir. Encore une fois, ce qu'on recherche, c'est la fraternité. On n'ira jamais à l'encontre de ce que les gens de la communauté font. On n'est pas là pour créer une division. Ça, c'est une question qu'on m'a posée une fois, mais est-ce que vous ne pensez pas que ça va créer une division? On n'est pas là pour créer une division parce qu'on n'annonce pas et on ne dit pas aux gens faites le contraire de ce qu'on vous a annoncé. Là, par exemple, vous avez vu, il y a des annonces sur jeudi, sur vendredi, sur... voilà. Chacun choisit de suivre qui il veut. Mais notre objectif, c'est que chacun ait les bonnes connaissances et soit averti de ce sujet afin de prendre les bonnes décisions. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullahu khair. Wa akhiru da'wana. Anilhamdulillahi rabbil alamin.